En colloque. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Canal Academy vous propose d'écouter 5 interventions d'académiciens des sciences morales et politiques et de l'Académie pontificale de Rome dans le cadre d'un colloque consacré à l'identité changeante de l'individu. Celui-ci s'est déroulé à la Fondation Simone et Cino del Duca à Paris les 24-25 janvier 2008 en lien avec l'Institut de France et l'Académie pontificale. Dans cette retransmission, nous vous proposons d'écouter son éminence Marcello Sanchez Sorondo, chancelier des Académies pontificales des sciences et des sciences sociales sur la définition de l'identité, de la réconciliation entre philosophes et scientifiques. En effet, aujourd'hui, les sciences humaines peuvent constituer un lieu privilégié pour explorer la signification complexe de la réalité, mais surtout de l'homme lui-même dans son identité et son soi changeant. En agissant, chaque être humain devient responsable de ses actions et leur donne un sens. Inversement, en revenant en arrière, il peut remonter de ses comportements manifestes jusqu'au noyau dont ils surgissent. Écoutons sans plus tarder Marcello Sanchez Sorondo pour une communication en français.
L'existence humaine peut être traitée des différents points de vue, sans que l'on puisse et ne puisse aucune. L'un de ces points de vue consiste dans l'opposition entre l'identité de chaque individu, qui est à la fois une et multiple, aux causes de ces changements qu'elle affecte selon les circonstances. Parfois, les différences sont si grandes que, comme certains philosophes l'ont soutenu, l'identité même de l'individu paraît très questionnable, particulièrement dans les états anormaux comme la schizophrénie. Hegel, suivant ainsi là la tradition aristotélicienne, affirme toutefois que, je cite, « les différences sont, en tant que changement apologique suivant, dans l'individu, les courses naturelles des âges de la vie, les rapports des sexes, la différence entre les sommeils et l'éveil. À celui-ci pourront s'y ajouter quelques autres, comme les loisirs et le travail, la santé, la maladie et l'événement existentiel décisif correspondant à la naissance, c'est-à-dire la mort, et ses états proches. Pour ce qui s'agit des différences qui concernent à la fois des aspects physiques, biologiques, neurologiques et spirituels, une pluralité de points de vue est nécessaire pour comprendre l'identité changeante de l'individu. Les savoirs sur l'homme. Il n'a pas eu de problème majeur tant qu'une frontière n'était tracée entre une nature comprise comme animée et voisine de l'âme et une âme elle-même marquée des finalités. C'est l'époque de la physique aristotélicienne et des anthropologies naturelles comme celle de la des anima d'Aristote. Le problème est devenu aigu dès lorsque la nature a fait l'objet d'une science fondée sous la seule observation, les calculs mathématiques et l'expérimentation. C'est l'essence de la révolution galiléenne et newtonienne, comme l'appelle Kant. L'esprit humain considère ne pas avoir accès à un principe de la production de la nature par elle-même au pour une autre qu'elle-même, ce qu'Aristote appelle la forme en tant que principe de l'activité. Il ne peut que recueillir les dons naturels observés dans l'espace et dans le temps et entreprendre de sauver les phénomènes comme l'avait déjà suggéré Platon et cela maître de Galilée. Ce n'est pas rien pour l'homme moderne tant et illimité les champs de l'observation et puissante la capacité de former des hypothèses avec une formule mathématique qui est d'entendre et de remplacer les modèles, de varier la modélisation, d'inventer des procédures de vérification et de falsification. Toutefois, avec les phénomènes relatifs à l'homme, cet ascétisme de l'hypothèse, de la modélisation et de l'expérimentation est compensé par l'effet que nous avons un accès partiel à la production de certains phénomènes observables par l'expérience et la autoréflexion philosophique portant sous ce qui en désigne du thème générique d'action. L'expérience et la réflexion philosophique expriment un point de convergence puisqu'il indique les chemins qui conduisent à la fin. L'action montre que l'homme agit en vue d'un fin et que lui-même est principe de l'action. Dans ces vastes champs de l'activité, l'homme se tient pour responsable de son action. En conséquence, l'action n'est pas donnée simplement à voir de l'extérieur, comme tous les phénomènes de cette nature dont elle fait partie. Elle, l'action, est donnée à comprendre à partir de ces expressions qui sont à la fois les effets et les signes des intentions que leur donnent sens et des actes créateurs des sens que parfois les produisent. Il en résulte que la connaissance de l'identité changeante de l'individu ne se joue pas sur un seul plan, celui de l'observation, de l'explication et de l'expérimentation. Elle se déploie à l'interface de l'observation naturelle et de la compréhension réflexive de type socratique. L'homme est à la fois un être observable, comme tout être de la nature, dont il est une partie, et un être qui s'interprète lui-même, self-interpreting being, pour parler comme Charles Taylor, au être herméneutique pour parler comme Paul Ricoeur. Cette affirmation des différents niveaux objectifs de l'épistémologie et de la conscience que nous avons de nous-mêmes pourrait offrir une réponse de réconciliation et de pacification à la question posée pour le statut de l'identité changeante de l'individu humain si l'idéologie positiviste ne prétendait abolir les frontières entre la science de la nature et la science de l'homme et annexer les secondes aux premières. Deux lieux conflictuels sont à cet égard à considérer en vue d'une vraie confrontation entre l'approche objective naturaliste et l'approche réflexive philosophique d'une anthropologie que nous pouvons appeler métaphysique. Ces deux lieux problématiques sont les domaines de les neurosciences et celui des de sciences biologiques. Au plan des neurosciences, on attend du scientifique qu'il cherche, au niveau du cortex cérébral, la corrélation entre les structures observables et des fonctions dont ces structures sont la base, les supports ou la matière nerveuse, comme on voudrait les appeler. La scientifique n'observe que les changements quantitatifs et qualitatifs des hiérarchies toujours plus complexes des phénomènes observables, mais l'essence de la fonction correspondant à la structure n'est compris que par les sujets parlants qui dit qu'il perçoit, qu'il image, qu'il imagine, qu'il se souvient, qu'il promet. Ces déclarations verbales, jointes à des signes des comportements que l'homme partage pour une grande part avec les animaux supérieurs, viennent s'inscrire dans un type de discours où on ne parle pas des neurones, des synapses, mais d'impressions, des intentions, des dispositions, des désirs, des idées, des projets, etc. Nous trouvons un certain dualisme sémantique, si l'on peut dire, qui ne préjuge pas de la nature unitaire absolue de l'individu humain. Un corollaire important de ces dualismes sémantiques consiste en ceci, qu'il est parlé différemment du corps, du même corps dans ces deux discours. Il y a les corps objets, dont le cerveau est la partie directrice avec ce merveilleux architecture et les corps propres, ces corps qui est le seul à être mon corps, qui m'appartient, que je meurs, que souffre. Et c'est sur ces corps propres que s'édifie toute l'architecture de mes pouvoirs et de mes non-pouvoirs. Pouvoir dire, agir, raconter, s'impoter à soi-même ses propres actions comme étant les véritables auteurs. Se pose alors la question du rapport entre les deux discours, celui du neurobiologiste et celui du philosophe phénoménologue, est ensuite métaphysique. Et c'est ici que les discours se croisent sans jamais se dissoudre l'un dans l'autre. Les savants, les philosophes, pour se mettre d'accord pour appeler les corps objets, et sa merveille, le cerveau, laissent là sans quoi nous ne penserions pas, ne déciderions pas. La scientifique, pour continuer à professer une espèce de physicisme, comme le pré-socratique, des méthodes qui lui permet de travailler sans ses scrupules métaphysiques. Le philosophe parlera alors du cerveau en termes des conditions d'exercice, des supports, des substrats, des bases, des matières céphaliques. Il faut l'accepter, nous n'avons pas pour le moment des troisièmes discours qui sauraient nous dire de quelle manière ces corps, cerveau et mon corps bif sont un seul et même être. Nous vérifions ici que nous n'avons pas l'accès direct à l'origine radicale de l'être que nous sommes. C'est-à-dire que nous n'avons pas une espèce d'autotransparence sur nous-mêmes et sur notre être, et à partir de celui-ci, sur tout ce que nous faisons. Notre mot d'être et notre être même attestent leur existence dans l'exercice concret et actuel de notre vie, de notre action. Toutefois, faute de ces discours directs de l'origine, scientifiques et philosophes se borneront à chercher un ajustement toujours plus serré entre une science neuronale toujours plus experte en architecture matérielle et des descriptions phénoménologiques toujours plus près du vécu authentique. Il s'ensuit que les discours de la science neuronale et de la phénoménologie décentralisés, ou plutôt recentralisés, dans la direction d'une forme d'être, d'un temps puissant et effectif sous lequel se profile l'action humaine à travers de ses corps objectifs et des mon corps bifs, ces deux traits peuvent être également et conjointement les constituants d'une herméneutique métaphysique du sujet humain. Une telle dialectique des décentralités, centralité, recentralité, comme vous voulez, vers son fond d'être, atteste que s'il existe un être du sujet, un être de ses corps et de mon corps, en d'autres termes, si une ontologie de l'objectivité et de la subjectivité humaine est possible, elle est en connexion avec un fond à partir duquel le sujet peut être considéré comme vivant et agent, comme ses corps et mon corps, comme les mêmes qui restent toujours dans la multiplicité de les actions différentes et dans la permanence dans les temps. Ici, la question est un incontestable passage de ce corps, mon activité, au sujet vif de moi-même. C'est pour être, en fait, dans les profonds enracinements que la vie a en nous sous ses fonds d'être comme puissance active, dans les conatos de toujours, que réside l'exigence que ma vie doit transcendre la mort de mon corps. J'ai lu récemment un texte très beau de Ricoeur où il dit, au moment de la mort, c'est une lettre qu'il écrit à un élève, que c'est la potence de l'être, la force de la résurrection. Là, il parle de la potence de l'être. Les sciences biologiques. C'est dans le même esprit qui pouvaient être traitées les questions qui se posent à la science biologique. La philosophie, et pas seulement elle, mais la science socieuse de se démarquer de la biologie, ne se livreront pas à un combat perdu d'avance concernant les faits le meilleur établi de la science biologique. Les biologistes affirment que la première cellule sous-embryonnaire, à la base de tous les êtres vivants actuels, utilise déjà l'acide désoxyribonucléique, ADN, c'est-à-dire une macromolécule dont la structure et les propriétés chimiques lui permettent de stocker et de transmettre l'information génétique. La cellule pourrait donc être considérée non seulement comme une unité structurelle du vivant, mais aussi comme un vecteur des gènes assurant les transmissions au fil des générations. Ces comportements vectoriels cellulaires que l'on partage pour une grande part avec les animaux supérieurs viennent s'inscrire aussi dans son type de discours où on ne parle pas des cellules, des acides désoxyribonucléiques, des codes génétiques, mais des sujets qui possèdent un principe interne de développement ou autogénèse à partir d'un acte premier ou une puissance active capable d'arriver à une réalité accomplie et qui est aussi le même sujet physique et biologique avec les mêmes codes génétiques pendant toute la durée de son existence, du commencement jusqu'à la mort. Se pose alors la question du rapport entre les discours du biologiste et celui des philosophes. Et c'est ici que les discours se croisent avec des interférences sans jamais perdre cependant leur propre signification. Les biologistes et les philosophes peuvent se mettre d'accord pour appeler l'embryon, avec son code génétique, laisser-la totipotent, sans laquelle nous n'aurons pas de vie, de durée ni d'identité. Les biologistes parlent des cellules vectorielles des grandes potentialités, totipotent. Par ailleurs, ce mot a été emprunté à la philosophie aristotélicienne, c'est-à-dire des puissances. Puis, cette cellule qui a un dynamisme de développement tout en conservant l'identité du code génétique. Les philosophes et les théologiens, pour parler du même sujet que dès le départ, et ce qu'il est, comme individu et comme personne, même s'il n'est pas développé, parce que son identité physique, biologique, est son principe actif qui organise progressivement le corps complet du sujet. Pour ces raisons, quand pour les biologistes, il s'agit d'une cellule souche humaine, les philosophes sont lui face à une personne humaine non développée. Quelque chose de similaire arrive à l'autre extrémité de la vie, c'est-à-dire au moment du passage à la mort. Les médecins, qui autrefois considèrent l'arrêt cardiaque définitif comme un signe de décès biologique, considèrent aujourd'hui l'arrêt de la fonction cérébrale comme un fait irréversible dans la vie d'un être humain. Le cerveau n'est donc plus signe de vie puisqu'il n'effectue plus les opérations que pouvait vérifier. Mais la coordination d'autres systèmes vitaux, les philosophes réalistes, parle d'état de décès dans la mesure où le corps n'étant plus capable de reçue la vie et les principes de l'âme, cette dernière alors est séparée du corps, de sorte que le corps n'étant plus informé par l'âme ne s'appelle plus corps mais cadavre ou équivoquement corps. Les neurologues déclarent aussi le décès de l'individu comme un décès cérébral. Les philosophes et les spécialistes en théologie déclarent tous les deux le décès biologique de la personne comme la séparation de l'âme du corps. Les deux s'accordent à dire qu'il y a un état de décès du corps dans lequel les organes peuvent continuer à avoir un certain type d'activité, par exemple, grâce à un instrument extérieur, le respirateur. Ceci s'oppose à la conception du décès comme une sorte de processus qui commence avec l'effet irréversible et ne s'achève qu'avec la mort de toutes les cellules du corps, même si les ADN peuvent persister dans les os de cadavres des milliers d'années. Cette conclusion s'oppose aussi à considérer la mort une analogie d'un acte politique qui doit être déterminé pour un critère des biens communs selon laquelle un fait réversible cerveau conduit les médecins et la famille à déclarer du moment du décès selon la convenance de la majorité ou pour faire une transplantation. L'on pourra dire que jusqu'ici nous avons principalement parlé de ce que Paul Ricoeur, dans ses écrits les plus récents, a appelé la identité comme mêmeté, considérant que chacun est simplement le même. Celui-ci suppose l'existence d'une identité du sujet. Elle n'est pas la plus importante, dit Ricoeur, car elle appartient à la sphère, en langage heideggerien, du Vorhanden ou des Zuhanden. Important pour Kant est l'identité comme ipséité, en vertu de laquelle un est un soi-même, qui appartient à la sphère du Dasein, c'est-à-dire de l'existence authentique. Cette dernière identité, la ipséité, est avant tout une identité narrative, c'est-à-dire le résultat d'une unité effective, d'une vie complète, assurée pour les caractères, entendue comme une certaine constance dans les dispositions, et surtout pour la fidélité à soi-même, attestée pour le maintien des promesses. Cette ipséité, c'est-à-dire le maintien de soi, est pour Ricoeur l'identité authentique du personnel. On pourrait ajouter que c'est seulement avec le christianisme qui attribue à l'homme la liberté effective de choisir sa dernière fin, lui reconnaissant aussi la pleine responsabilité de ses actions, que le concept de l'identité personnelle attire sa dernière exigence existentielle, c'est-à-dire la domination de l'être spirituel sous ses actes, ce que Ricoeur, dans la tradition existentialiste kierkegaardienne, appelle l'existence authentique. Ces doctrines avaient déjà été proposées pour la première fois pour saint Thomas, et je ne cite pas les textes, comme Hegel l'a observé en concluant son analyse sur l'être humain, l'homme oriental et l'homme grec ne sont pas libres car ils sont sous-jacents aux lois du destin et de la nécessité, que même le Dieu ne peut changer. Seul le message du Christ a introduit dans le monde ces notions de liberté universelle et radicale dans l'essence des noyaux originaires de la dignité de l'homme, capable de donner une identité authentique à l'existence individuelle parce que, et je cite le texte très fameux d'Hegel, l'individu comme tel a une valeur infinie en tant qu'il est objet et but de l'amour de Dieu, qu'il est destiné à avoir avec Dieu en tant qu'esprit son rapport absolu, à voir cet esprit habiter en lui, c'est-à-dire que l'homme est destiné en soi à la plus haute liberté. L'identité humaine aussi ne se joue pas sur le seul plan physique, biologique et sensitif, mais par l'activité de pensée et de la libre volonté, du caractère, de l'habitude et de la fidélité à soi-même et à son propre choix, l'être humain est capable de se donner cette identité existentielle qui authentifie sa propre vie. Or, sur les plans anthropologiques, métaphysiques, doit être clair l'unité de l'être comme exigence aussi de la philosophie analytique, non entité without identité. Pour résoudre les problèmes de l'appartenance à l'identité du même être vivant, des fonctions aussi différentes que la végétative et sensitive, Aristote recourt, et avec lui saint Thomas, à l'analogie de l'inclusion des figures géométriques. L'intérieur est contenu une puissance dans ce qui lui est consécutif, aussi bien pour les figures que pour les êtres animés. Par exemple, dans les quadrilatères et continue les triangles. Toutefois, Aristote, à moins dans ses textes, n'entend pas l'analogie en ce qui concerne l'inclusion des fonctions végétatives et sensitives à la vie intellectuelle. Cette inclusion du spirituel est effectuée pour Saint-Thomas en se basant sur les principes de l'unité de l'être pour l'acte. L'âme humaine, en tant qu'elle surpasse la relation au corps, on l'appelle esprit ou substance spirituelle. Si l'intellect et la volonté comme principe, c'est-à-dire comme faculté, sont spirituels, et également spirituels les principes, l'âme, auquel l'intellect et la volonté appartiennent et à partir de laquelle émanent ces facultés. Le corollaire de ces réflexions est que chaque être humain, ou bien chaque individu humain singulier, comme l'a également démontré Kierkegaard, de laquelle Ricoeur et Heidegger s'inspirent, a une individualité qui est son identité propre au jeu théologique et se trouve davantage Dieu, avec la capacité absolue, cap axté, pour la choix responsable de la fin dernière. Intelligent et libre, l'être humain libère son identité dans l'ordre moral, c'est-à-dire émerge des forces de la nature et des instincts des animaux, et c'est ainsi qu'en tant que sujet spirituel, il a l'aptitude à recevoir la grâce. Et c'est la dernière émergence de l'être humain comme esprit. Et ainsi, lorsqu'il a reçu la grâce, il est rendu fort pour poser les actes requis, dit Saint-Thomas. On peut ainsi distinguer deux moments dans la structure de l'identité changeante de l'individu. L'un, initial, est constitué pour la nature biologique et rationnelle de l'être humain. L'autre final regarde et exprime l'exercice de l'intelligence et de la liberté en acte comme structure opératrice des fins et moyens, donc comme unification et coordination des valeurs dans la construction de la vie propre. Comme dit Saint Augustin avec Saint Paul, le premier moment est donné comme création d'un être nécessaire et l'image de Dieu sans médiation de la liberté. Le deuxième comme récréation dans l'être de la grâce où intervient la liberté. Celui qui t'a créé sans toi ne te justifiera pas sans toi. Il t'a créé sans la connaissance, mais il ne te justifie pas sans ta volonté. L'individualité est pour cela la synthèse de l'aspect statique et dynamique considéré dans la tâche de la construction de la vie elle-même, c'est l'homme l'obtention de la fin choisie. Les changements et les différences de l'état auquel nous avons fait allusion n'effacent pas l'identité, mais celle-ci est affirmée et se réalise en elle-même, y compris à travers contre et sur eux-mêmes.
Vous venez d'écouter Son Éminence Marcello Sanchez-Sorando, chancelier des Académies Pontificales des Sciences et des Sciences Sociales. Il s'exprimait sur la définition de l'identité et de la réconciliation entre philosophes et scientifiques dans le cadre d'un colloque consacré à l'identité changeante de l'individu qui s'est déroulé fin janvier 2008 à la Fondation Simone et Cino del Duca à Paris. Restez sur Canal Académie et écoutez les interventions des membres de l'Institut de France. Bernard Roque, membre de l'Académie des sciences, développe le thème des drogues et de la recherche d'identité. Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, immunologiste, évoque le thème toujours troublant des vrais jumeaux et de leur identité. François Gros, généticien, membre de l'Académie des sciences, développe la question de la génétique qui nous rend à la fois si semblables et différents. Enfin, François Théré, juriste, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, s'exprime sur l'identité dans les textes de droit. Toutes ces interventions sont sur le site de Canal Académie en libre téléchargement. Merci de votre écoute et à très vite pour de nouvelles émissions.